Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du samedi 16 août 2025. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Comme tous les samedis, il va y avoir la rétrospective, on remonte aujourd'hui en 1977. C'était il y a 48 ans déjà, Elvis Presley mourait. Retour sur ce jour tragique avec notre collègue François Vantôme, qui au passage dresse le portrait de ce célébrissime chanteur, acteur également, parti à l'âge de 42 ans. Mais d'abord, une chanson, Paris Melbourne, Sophie Morin.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Un taxi. La Seine. La pluie. Porte de Vincennes, puis l'autoroute, direction Roissy. Terminal 2, vous enregistrez votre valise. Elle disparaît sur la dentelle de caoutchouc et se mêle aux autres bagages dont la destination vous est inconnue. Une série d'escalators vous escorte jusqu'aux douanes. Vous ne ralentissez pas devant les boutiques hors taxes, mais au coin presse, vous piochez un hebdomadaire. Le courrier international titre « Voyage dans l'Irlande du Brexit ». 8h10. Vous embarquez pour le vol AF38. Deuxième couloir sur votre droite, vous rejoignez le siège 27K. Vous ne prêtez plus attention aux consignes de sécurité chorégraphié par des automates haute couture. L'Airbus accélère sur le tarmac. Bourdon vrombissant, poinçonné de 220 hublots, il prend de l'altitude. Ses vibrations vous bercent presque instantanément. Il transperce une couche épaisse de nuages semblable à un oreiller crevé. L'ouate s'étale en mouton sous vos yeux. Vous quittez la ville lumière et vos insomnies. Trois heures de vol vous séparent de lui. À chaque turbulence, vous vous représentez son visage. Combien de fois penserez-vous à lui durant ce voyage? Vous quittez définitivement l'espace Schengen aux alentours de midi. Les fuseaux horaires et les paysages défilent. Sur votre écran apparaît la course de l'appareil et l'avancée du jour sur la nuit. Voix off céleste encombrée de sons parasites. Le commandant annonce l'heure d'arrivée et la température à destination. Sous la vitre, les lumières miniatures des Émirats ressemblent à des pixels extatiques presque spirituels. Escale de nuit à Abu Dhabi. Deuxième décollage à 21h10. Plus que 13 heures pour atteindre l'été. Dans la carlingue, il n'y a pas de saison. L'air conditionné assèche votre épiderme. L'immobilité prolongée déglingue votre circulation sanguine. Votre corps s'est alourdi. Vous survolez le Sri Lanka à l'aube, Kuala Lumpur, Singapour et Jakarta en plein jour. Il vous attend. Il est encore plus beau vu du ciel. Vos tympans peinent à s'accommoder au changement de pression. Une douleur à l'oreille vous signale la fin du parcours. Soleil vent, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50. 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
C'était il y a un demi-siècle, bientôt 48 ans, que le king du rock'n'roll mourait. Elvis Presley s'est en effet éteint le 16 août 1977, après avoir mené des combats personnels. Mais sa musique, elle, est éternelle. Retour sur ce jour tragique avec François Vantôme.
Le 16 août 1977, le monde a perdu l'une de ses icônes les plus emblématiques, Elvis Presley, connu comme le King of Rock and Roll. Sa mort à l'âge de 42 ans a laissé un vide immense dans l'industrie musicale et a bouleversé des millions de fans à travers le globe. Cette journée tragique, marquée par la fin prématurée d'une carrière brillante, a également été le début d'une série de controverses et de spéculations qui entourent sa vie et les circonstances de sa mort. Pour comprendre la tragédie de sa mort, il est important de se plonger dans les derniers jours de sa vie. Elvis Presley, qui avait connu un immense succès dans les années 50 et 60, a traversé une période de difficultés au cours des dernières années de sa carrière. Bien que ses concerts continuent d'attirer les foules, il a commencé à lutter contre des problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques et une dépendance aux médicaments. Elvis avait constamment lutté contre le poids, une situation exacerbée par des habitudes alimentaires peu saines et une consommation de drogues prescrites. Malgré cela, il continuait à se produire sur scène, convaincu que sa musique avait le pouvoir de rassembler les gens et de transcender les épreuves personnelles qu'il traversait. Pour beaucoup, il était un artiste inébranlable, capable de surmonter les obstacles tout en captivant son public avec sa voix unique et son charisme indéniable. Le matin du 16 août 1977, Elvis Presley était chez lui, à Graceland, à Memphis, dans le Tennessee. Sa compagne, Ginger Alden, a décrit la scène dans les jours qui ont suivi sa mort. Elle s'était levée plus tôt ce jour-là, laissant Elvis dormir. Par après, elle l'a trouvé inconscient sur le sol de la salle de bain. Le temps qu'elle appelle les secours, il était déjà trop tard, les tentatives pour le réanimer ont échoué. Lorsque le médecin de famille est arrivé sur les lieux, il n'a pu que constater le décès de la légende. La nouvelle de la mort d'Elvis a rapidement fait le tour du pays, provoquant une onde de choc parmi ses fans et ses collègues.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. The end at an early age of one of the two most spectacular careers in the history of American entertainment, the other being Frank Sinatra's.
Les médias, quant à eux, se sont empressés de rapporter la nouvelle, accompagnée de détails sur sa vie tumultueuse. La réaction à la mort d'Elvis Presley a été un mélange d'incrédulité, de chagrin et de célébration de sa vie. Des milliers de fans se sont rassemblés devant Graceland, déposant des fleurs et des lettres en hommage à leur idole. La douleur des fans était palpable, car ils perdaient non seulement un artiste, mais aussi un symbole de la culture rock. Les funérailles d'Elvis ont eu lieu le 18 août 1977, et plus de 80 000 personnes se sont rassemblées à Memphis pour rendre hommage au roi. Sa dépouille a été exposée à Graceland pendant plusieurs jours, permettant aux fans de lui faire leurs adieux. Les funérailles ont également attiré des célébrités, des amis et des membres de la famille d'Elvis qui se sont réunis pour se souvenir de son héritage et de l'impact qu'il avait eu sur leur vie. La mort d'Elvis a ouvert la porte à de nombreuses spéculations. Les autopsies ont révélé que des médicaments prescrits, en particulier des opiacés, étaient présents dans son système. Cela a mené à des discussions sur les effets de l'industrie musicale et de la célébrité sur la santé mentale et physique des artistes. Les médias ont évidemment saisi cette occasion pour débattre de la pression énorme subie par les célébrités et de la manière dont la toxicomanie peut les consumer. De plus, la mort d'Elvis a engendré de nombreuses théories du complot. Certaines personnes affirment qu'il n'est pas réellement mort, qu'il a simulé sa mort pour échapper à la pression de la célébrité. Ces rumeurs persistent encore aujourd'hui, alimentées par une fascination continue pour la vie d'Elvis et son statut de figure mythique. Malgré sa mort prématurée, Elvis Presley demeure une légende. Sa musique continue de résonner à travers des générations.
Love me tender, love me true.
Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. You ain't nothing but a hound dog. was there, they began to wail.
Wise men say only fools rush in.
Son style unique et sa capacité à fusionner différents genres musicaux, notamment le rock, le blues, le gospel, ont marqué un tournant dans l'industrie musicale. Enfin, chaque année, des millions de fans visitent Graceland pour célébrer sa vie et son héritage. Les anniversaires de sa naissance et de sa mort sont l'occasion de rassemblement et de commémoration à travers le monde. Elvis n'est pas seulement un musicien, il est devenu un symbole de la culture rock et un modèle pour les artistes à venir.
So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. When all my trials are so.
De ce qu'ils pensent de toi, de ce qu'ils pensent de nous deux. Baby,
baby, je suis pas responsable. De ce qu'ils pensent de toi, de ce qu'ils pensent de nous deux.
Voilà, c'était Orage qui chante Boomerang sur les ondes de Radio SBS. Restez avec nous, messieurs, dames, on marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant. Notre collègue Bertrand Tougandamé a rencontré Emmanuelle Matana. Elle nous partage sa vision et son expérience du tournage de Friends, un film franco-australien qui est une des grandes révélations du Melbourne International Film Festival 2025.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Friends is a highlight of the Melbourne International Film Festival 2025, directed by Sophie Somerville and featuring Emmanuelle Matana. It captures the essence of being in your 20s with a mix of humor, improvisation, and a love letter to Melbourne in spring. And I'm happy to say I'm joined by Emmanuelle Matana to give us some insights and much more about this film. Emmanuelle, thanks for joining us and welcome to SBS French.
Hello, bonjour, thank you for having me.
Can you tell us about the creation and filming process of Friends? Friends, first of all, is written not like Friends, but Friends, F-W-E-N-D-S.
Yeah, I guess because it's a film that's about friendship and what it feels like to grow up and grow apart from your childhood friends. So I think Friends is sort of a cute way of, you know, being childish with it. Friends was an amazing film to shoot. And the thing that I loved so much about it was it was a largely improvised film. A lot of the stuff we were kind of finding as we went. It was part narrative and part documentary. We were really inspired by a lot of the French New Wave directors, and a lot of the comparisons we got were to their sort of style of filmmaking. So we spent a couple of weeks walking around Melbourne, discovering our city and filming the whole thing on camera through the eyes of these two characters.
The film is about M and Jesse just talking and catching up over a weekend.
Yeah.
But you go through Melbourne, and Melbourne is kind of a third character in the movie.
It was such a beautiful experience to film in the way we did, because you become aware of your city in a way that you don't normally do, and all these places that you usually don't give a second glance, we got to think of as really beautiful and really special and spend time there. It was so lovely.
You said it's mainly improvised. What were the challenges of improvising that much in a feature film?
I think everything that was a challenge ultimately ended up being a gift as well. Obviously, the challenge is that you don't know what's happening next. That means that your scene partner can do something that surprises you and you can do something that surprises them. But also that ended up kind of being the great gift of the film, was that we didn't always know what was going to come next, just like real life. And it meant that we could film in a way that was really truthful, and we got to find so much story organically. So it ended up really being a gift.
Yeah. And how did your previous work on Mustangs FC influence your performance in Friends?
It's really interesting. I sort of started my career in kids television, and the thing about shooting TV is that you work really fast and you work in a really contained, specific way. You know exactly what the outcomes are. After a while, I moved over to theatre because I wanted to explore that medium more and found a lot of freedom there. And then what was really cool about the way that Sophie shot her films was that because we were on such wide lenses and the city sort of became our stage, it meant that I didn't have to worry so much about a camera being up in my face, and I could really, you know, explore things and explore my surroundings. And as an actor, that was just such a gift.
And there are different camera angles when at the beginning, the middle of the film, you know, at the beginning, you know, the way the camera, you face the camera is completely different from how the film is shot towards the end of the movie. What was the cinematic experience of this kind of shooting?
It was wonderful. Carter Looker, who was our cinematographer, has worked with Sophie Somerville, our director, before. And so they have this incredible shared language where they know exactly how they want to tell the story, and it feels like they kind of communicate with each other telepathically almost. It was really an incredible experience because Carter would be able to set up a camera and he would use these incredible zoom lenses. So he could be, you know, on the other side of, in one case, he was on the other side of the Yarra River to us. He could be on the other side of a park. He could be on a different corner of the street, and he'd be able to sort of film us from so far away, just talking. And you almost forgot the camera was there.
There are scenes where you're crossing the street and you can see the camera is shooting from the back. So quite challenging in the middle of traffic, a lot of foot traffic around you, and just isolating that sound would be, well, you would need a gifted sound engineer to bring that to life.
Yeah, we did. We were wearing these tiny little microphones that we just sort of had hidden in our clothes, and all of the sound team were amazing, and they managed to make it work. So you get this really cool effect of the microphones being so close to us and hearing all the intimacy of our conversation while the cameras are so far away capturing us, you know, like tiny little ants in the city.
Yeah, that would be a great challenge. But then you had an excellent and very talented team with you. Now, the film...
we were very lucky.
Yeah, the film won the Calgary Film Prize at Berlinale. What does that recognition mean for you?
Oh, it was so amazing. This is a film that was really a labor of love between a lot of friends. I think before shooting it, this sort of style of film hasn't really been recognized in Australia very much. There's a really specific cinematic language, and I think what Sophie does in her films that is so magnificent, she really values the everyday. She values the beauty of small moments and of cinema as something that can be really artistic and art house. And it was really exciting to feel the reception at the Berlinale, but also in Europe more generally. We've had the film in a bunch of cities over there, over in Spain, in Poland, hopefully in France very soon. The thing that has been so amazing is how receptive people across the world have been to this style of filmmaking that is so art house and so beautiful and intimate, but also so deeply Australian. I think a lot of Australian films don't celebrate young women. They don't celebrate what it's like to live in an Australian city. We're so obsessed with, you know, showing beautiful landscapes and sweeping deserts. But I think what we've done is really capture a feeling and a place, and being able to share that with people has been the biggest gift.
Now, the film is lighthearted, very beautiful to see, very relaxed viewing and easy to see. But there's a passage with narration in French, with the French captions, that's very deeply, this is extremely serious and powerful reflections, philosophical. Tell us about this kind of intrusion in the very lighthearted movie.
I think something that we were really curious about is the way that often young women's experiences aren't treated as serious or important or cinematic even. We were really interested in how we could make a film that felt like it was lighthearted and felt like it was, you know, just about these friends, but actually what it was about something far more profound than that, because having friends is a profound experience, and loving your friends is beautiful, and sometimes, you know, being on drugs and wandering through the city with them is also a beautiful and special thing. And so we have this little French narrator who comes along and talks about basically how profound the friendship of these two women is. And it's funny, it's one of my favorite parts in the film. And I actually I didn't know that it was in there until we had our very first screening. And it was a big surprise for me. And I love that section so much because I think it does something really clever, which is play with all our expectations about cinema and obviously reference so much amazing French cinema, which I love. And then, yeah, do it in a really subversive way.
No, it's very surprising because it just pops out and very unexpectedly, and it just takes you out that kind of laissez-faire kind of attitude that you have watching that movie, and all of a sudden, wow, something hits you in the face.
Yeah.
And another thing that is really, really, really comes out in this movie is the themes that you explore, like sexual harassment and the environment. Tell us about how you managed to bring these themes in a movie that's lighthearted and at the same time brings reflections on very, very important topics.
Everything came really organically, which was really exciting. We would do one take, and in our first take we would always sort of explore a bunch of different ideas, and then Sophie would basically pull us aside after the take and go, oh, this was a really interesting idea. Let's spend some time in the next take talking about that. And maybe this idea we don't need for the moment. And so we sort of, as we were making the film, found these things that were really curious for us and that kept coming up. And, you know, the sexual harassment thing was something that came out in one take by surprise. And we went, oh, this is interesting. Let's keep exploring it. As for all the stuff on climate change, Sophie had packed my backpack full of props in my character's backpack. She had put this book about climate change in there, and so I was basically reading this book in between takes just to give me something to do, but it filled my head with climate anxiety that would come out in the work we were doing. And yeah, everything sort of came out because we felt like it was what the characters had on their minds, really.
Very contemporary film with Trumpian references, with object bought off themes, so really contemporary. What advice would you give to young actors trying to land a first major indie role like this?
I know people say it all the time, but anything artistic is a relationships business. I had actually seen lots of Sophie's shorts in the past, and so I followed her on Instagram. I was such a fan of her work, and she actually reached out to me on Instagram and said, hey, I'm also a fan of your work, and let's chat, I've got this idea. And it ended up really being that simple. So the thing that I always say to young creatives is to make friends or friends and build a community of people that inspire you with their work. Generally speaking, if you like someone's work, they're probably going to like your work as well, because you'll have similar sensibilities, and these are things that you build over years, you know, these relationships that are going to serve you one day, even if it's not immediately.
What does it feel to have a film so tied to Melbourne screened at an international event like the Melbourne International Film Festival?
Oh, it's so, so exciting. We've obviously only ever seen the film at festivals where people haven't been from Melbourne. And so it's been an experience for them to view Melbourne as a city that they're not familiar with. And I think the thing that's going to be so exciting is seeing the way people who live in this city feel about this city being portrayed on screen. I think it's going to be so exciting to treat Melbourne like the beautiful, romantic, interesting, exciting place that it is. And I hope that Melbournians can feel a lot of pride and joy from seeing their city on screen in the way we've shown it.
It's very beautifully filmed. Emmanuel Matana, thank you very much for taking the time to talk to us on SBS French about your movie, Friends, which is one of the most anticipated films at the Melbourne International Film Festival 2025.
Thank you so much.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Cerveau droit, cerveau gauche, émotion. Masque neutre. Je me demande si les fous sont tous des génies. Pourtant, je sais que les génies sont pas tous des fous.
C'était Tout pour plaire de Gilda. On va parler climat à présent. L'information ne peut pas vous avoir échappé. La Grande Barrière de Corail subit le plus grand blanchissement de son histoire. C'est le blanchissement le plus étendu, je cite, provoqué par des températures océaniques étouffantes en 2024 qui ont engendré, je cite, des niveaux de stress thermique sans précédent depuis les premiers relevés. C'était il y a 39 ans. On vous en parle tout de suite. grande barrière de corail est en danger et c'est le gouvernement qui le dit. Elle a subi le plus grand blanchissement de son histoire, c'est ce qu'on apprend dans un rapport publié mercredi dernier. La perte des coraux a été plus importante en 2024 qu'au cours de toute autre année depuis 4 décennies, c'est-à-dire depuis le début des relevés. Ce constat inquiétant survient alors que le gouvernement envisage un nouvel objectif climatique en matière d'émissions pour 2035 et après les récents avertissements de l'organisme du patrimoine mondial de l'ONU concernant l'avenir de la barrière de corail. Reportage. Elle attire chaque année des millions de visiteurs sur les côtes australiennes, génère des milliards de dollars pour l'économie et abrite près de 9000 espèces marines spectaculaires et uniques. Longue de plus de 2300 km, la Grande Barrière de Corail est le plus grand système de récifs coralliens au monde, si vaste qu'elle est visible depuis l'espace. Mais cette remarquable merveille naturelle est sous pression, elle est en danger. Une étude annuelle de la Grande Barrière de Corail menée par l'Institut australien des sciences marines, AIMS, a révélé que les sections nord et sud du récif ont subi la plus forte baisse annuelle de la couverture corallienne depuis le début des rapports, c'était il y a 39 ans. Mike Hemsley, responsable du programme de surveillance à long terme de l'AIMS, explique ses conclusions.
So the northern underwent a loss of about a quarter of the live coral cover and the southern Great Barrier Reef was almost a third. There were still losses in the central Great Barrier Reef, but it was somewhat less than the other two regions at only 14%. So these are substantial impacts and evidence that the increasing frequency of coral bleaching is really starting to have detrimental effects on the Great Barrier Reef.
Cette perte s'inscrit dans le cadre d'un phénomène de blanchissement massif à l'échelle mondiale qui s'est produit en 2023 et 2024, année où la Terre a connu son année la plus chaude jamais enregistrée. Le réchauffement climatique est à l'origine de ces changements, cela ne fait aucun doute pour Mike Hemsley.
Climate change is the number one cause of these mass coral bleaching events. There is a direct link between the increases of global greenhouse emissions, rising temperatures, sea surface temperatures that lead to these heat stress events and mass coral bleaching.
Ceci étant dit, la situation est complexe. Depuis le dernier épisode de blanchissement, c'était en 2017, la couverture corallienne de la Grande Barrière de Corail a augmenté. En d'autres termes, la mort des coraux l'année dernière a laissé à peu près la même surface de corail vivant que la moyenne et à long terme.
And because we came off such a high base, this has somewhat cushioned the impact of the 2024 bleaching, and coral cover has declined to about near the long-term average. However, this isn't to underscore the seriousness of the impacts. While there's still a lot of coral cover out there, these are record declines that we have seen in any one year of monitoring.
Mais ces fluctuations peuvent avoir des impacts bien sûr désastreux sur la biodiversité. C'est ce qu'explique Daniela Ceccarelli, écologiste des récifs coralliens à l'AIMS.
Biodiversity loss does seem inevitable, and that's showcased by this dominance of fast-growing corals. If you can imagine that after a bushfire, what grows back first and really quickly covers the earth are grasses and bushes, but then you know that we're still missing the trees until there's more time between the next bushfire. And on coral reefs, it's exactly the same. The fast-growing corals start the recovery, but we need more time for there to be the full biodiversity of corals that includes the slower-growing, more robust corals as well. And we do need that biodiversity to keep reefs healthy.
Et on le disait, ce rapport a été publié alors que le gouvernement fédéral examine son objectif climatique de réduction drastique des émissions de carbone d'ici 2035, conformément à l'accord de Paris. Son prochain objectif est d'ailleurs attendu le mois prochain. Un nouveau sondage publié par le Climate Council et le Climate Action Network montre que la plupart des Australiens souhaitent que le gouvernement agisse davantage face au changement climatique. Alors, si on donne les détails de cette enquête, elle a été menée en juillet par YouGov sur 1500 votants. 77% des personnes interrogées estimaient que le gouvernement devait agir pour réduire les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes et 68% des votants de la génération Z s'accordaient à dire que le gouvernement devait fixer un objectif climatique pour 2035 plus ambitieux. Les données concernant les autres tranches d'âge n'ont pas été fournies malgré une demande de SBS et la directrice générale du Climate Council, Amanda McKenzie, elle affirme que les électeurs sont du coup clairement favorables à un objectif climatique ambitieux. On l'écoute.
We know that Australia's largest voting bloc Millennials and Gen Z are concerned about climate change. And again, that shows up in this polling. Setting a strong 2035 climate target will help protect Australians from climate harm while driving new jobs and economic opportunities in industries like clean energy and green metals.
Selon le gouvernement du Queensland, là où il y a la Grande Barrière de Corail, eh bien la Grande Barrière de Corail génère 6,4 milliards de dollars par an pour l'économie, c'est énorme, et soutient 64 000 emplois, principalement bien sûr dans le tourisme. Gareth Phillips, il est le directeur général de l'Association des exploitants des parcs marins, et il indique que les opérateurs touristiques ont mené de leur côté plus de 15 000 études de surveillance du récif au cours de la même période que celle couverte par le dernier rapport et qu'ils étaient quelque peu préoccupés par les conclusions de ce rapport.
The reef operators have been saying that their locations, and a lot of this is driven by the efforts that they do and their site stewardship, collaborating with researchers, managers, there's a lot of locations that are actually looking better than they ever have. But at the same time, they're really concerned that people are going to lose hope because of a lot of language coming out. And the data shows the reef is fluctuating a lot. But it's what is missing is the hope that it does actually have time and that we've got time to act now.
Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a averti le mois dernier qu'il envisageait d'inscrire la Grande Barrière de Corail comme étant en péril lors de sa prochaine réunion, qui aura lieu l'année prochaine, perd également espoir, constatant que les perspectives pour cette merveille naturelle étaient extrêmement sombres. Il a demandé au gouvernement de soumettre un rapport actualisé sur l'ensemble des impacts du blanchissement massif des coraux. Et ces impacts, voilà, sont désormais plus clairs et bien plus préoccupants grâce aux résultats de cette dernière étude. C'était un reportage signé Edwina Guinon pour SBS News, traduit en français par Marianne Murat pour SBS French.
Jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu vert du lagon immobile, les routes des vallées dans les matins d'avril, l'air du lagon. Immobile, les routes délavées dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil.
Jeanne Chéral qui sort son nouveau titre Rodrigue, c'est sorti cette année. Voilà messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On l'a dit, votre prochain rendez-vous avec la formation c'est demain, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon samedi et je vous dis à demain. Au revoir messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.